Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Manger du pangolin ou de la chauve-souris, quelle drôle d'idée, me direz-vous. Après tout, les froggies que nous sommes apprécient bien les escargots, le lapin ou les cuisses de grenouille, quand dans d'autres pays, on raffole du criquet ou du porc épic. Une question de goût et de culture, on en a déjà parlé dans la story. Reste que cette promiscuité gustative peut parfois être à l'origine d'une grave crise sanitaire. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va se pencher aujourd'hui sur deux métiers qui essayent de comprendre le Covid-19 et autres virus peu sympathiques, de quoi créer peut-être des vocations. C'est un drôle de métier que l'on croirait sorti tout droit d'un manga, chasseur de virus.
Pokémon !
Chez les Pokémon, il y a les chauves-souris, les sonistrelles ou les Nosferapti, mais les chasseurs dont je vais vous parler dans la story ne se baladent pas avec l'application Pokémon Go sur leur portable. C'est beaucoup plus sérieux que cela. Julie Zog est journaliste. Installée à Hong Kong, elle a écrit un article pour les Échos Weekend à la rencontre de ces chasseurs pas comme les autres.
Alors, un chasseur de virus, c'est un chercheur qui endosse une combinaison intégrale, un respirateur, des gants, et puis qui part ensuite sillonner les pays tropicaux à la recherche de colonies de chauves-souris, dont il va prélever des échantillons et ensuite les analyser pour voir s'ils hébergent des virus inconnus.
Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse autant aux chauves-souris ?
Alors, la chauve-souris, c'est un mammifère assez intéressant. C'est donc le seul mammifère volant qui existe, ce qui fait que ça génère beaucoup de stress pour le corps de ces animaux. Et cela devrait normalement provoquer une réponse de leur système immunitaire. Mais pour éviter cela, les chauves-souris désactivent en partie leur système immunitaire. Et ça explique pourquoi ils sont autant susceptibles au virus. Donc, les chauves-souris hébergent énormément de virus, ce qui les rend très intéressants pour les chasseurs de virus. À cela s'ajoute le fait que les chauves-souris sont une espèce très abondante. Elles représentent 20% de tous les mammifères sur Terre. Et elles vivent aussi dans des colonies très denses, dans des grottes humides, ce qui favorise également la transmission de virus.
Oui, la prolifération, j'imagine, hein, ces grottes humides. On a tous ces images, effectivement, des cavernes avec ces centaines, ces milliers de chauves-souris qui peuvent s'envoler un peu comme dans un film de Batman. Où est-ce qu'on en trouve des chauves-souris et ces colonies de chauves-souris ?
Alors, on en trouve à peu près partout sur Terre, mais les chasseurs de virus auxquels je me suis intéressée se concentrent sur un système de grottes calcaires qui se trouve dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Ce sont des grottes où les colonies de chauves-souris ont particulièrement beaucoup de coronavirus. Et c'est pour ça que les chasseurs de virus que j'ai interviewés s'intéressent à cette région-là. Une autre équipe s'intéresse aussi au Myanmar et au Kenya. Mais il y a aussi des équipes qui sont actives en Thaïlande, sur l'île de Bornéo, en Amérique latine, enfin, en gros, dans tous les pays tropicaux.
Ce que j'ai bien compris aussi, c'est que ce sont des endroits où il y a des mélanges, ou en tout cas, la population humaine commence aussi à empiéter sur le territoire de ces animaux.
Oui, tout à fait. Ce sont aussi des régions où il y a énormément d'interactions entre l'homme et la vie sauvage, essentiellement parce que ces régions se sont développées très vite avec une population humaine en grande croissance, avec beaucoup de nouvelles routes, avec des mines, toutes sortes d'infrastructures qui sont construites dans des régions où la vie sauvage régnait normalement. Et ce sont aussi des régions où il y a des grandes fermes avec des animaux domestiqués qui, eux aussi, entrent en contact avec cette vie sauvage. Et ce sont finalement des régions où l'humain consomme les animaux sauvages qui sont souvent vendus vivants dans des marchés comme celui de la ville de Wuhan, d'où est partie la pandémie actuelle.
Alors, on comprend bien que ces chasseurs de virus sont des scientifiques un peu particuliers. On peut se demander comment est-ce qu'ils sont équipés pour attraper ces animaux et puis est-ce que ça peut être dangereux ?
Oui, cela pourrait potentiellement être dangereux. C'est pour ça qu'ils portent des combinaisons intégrales, des respirateurs, des gants. Ils sont, dans le fond, équipés comme les médecins qu'on voit aujourd'hui dans les hôpitaux qui traitent les patients atteints du coronavirus. Et le risque pour eux, ce serait d'être exposés à de l'urine ou de la matière fécale de chauve-souris, ou alors même de se faire mordre par l'une de ces bestioles. Mais ayant dit tout cela, le risque est quand même pas si important, parce que la plupart des virus qui se trouvent chez les chauves-souris ne peuvent pas être transmis directement à l'homme. Il faut pour cela, en fait, un animal intermédiaire, un hôte intermédiaire, qui permet au virus de muter et ensuite d'infecter l'humain.
Alors Julie, avec l'épidémie de coronavirus qui touche toute la planète, il y a une prise de conscience de l'importance de leur travail aujourd'hui ?
Oui, l'une des chasseuses de virus, c'est une chercheuse chinoise qui s'appelle Xu Zhongli, a découvert l'ancêtre du Covid-19. En gros, elle a prélevé un échantillon dans une grotte au Yunnan en 2013 et il s'est avéré que cet échantillon-là était à 96% identique au virus qui affecte actuellement la population mondiale. Et il s'agit donc très vraisemblablement de son ancêtre. Donc, à travers ce genre de découverte, la population a pris conscience de l'importance du travail effectué par ces chercheurs. Mais d'un autre côté, cette même chercheuse, cette Xu Zhongli, s'est aussi retrouvée au cœur de la controverse parce que son laboratoire, le laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan, a été accusé par de nombreux politiciens, dont le président américain Donald Trump, d'avoir en fait provoqué la pandémie actuelle. Et ce même président Donald Trump a aussi coupé les fonds à l'initiative PREDICT, qui est l'une des principales initiatives qui finance les chasseurs de virus.
Et on voit que c'est un dossier éminemment politique. Hein. Ça ravive d'ailleurs en ce moment les tensions entre la Chine et les États-Unis. Malgré tout, et ça c'est intéressant, c'est que leur travail est productif, ça sert à quelque chose ?
Oui, tout à fait. Alors, par exemple, pour ne prendre qu'un seul exemple, une ONG américaine qui s'appelle EcoHealth Alliance, un des principaux acteurs qui cherchent ces nouveaux virus, a trouvé 500 nouveaux coronavirus au cours de la dernière décennie. Et parmi ces 500 nouveaux coronavirus, une cinquantaine sont très dangereux pour l'humain, car proches affiliés du SRAS, et donc sont très susceptibles en fait, de passer de l'animal à l'humain.
Ce travail permettra peut-être de mieux réagir la prochaine fois ?
Alors oui, c'est un autre objectif de ces chasseurs de virus, c'est de réussir à prévenir la prochaine pandémie. Cela se fera en comprenant comment et où elle risque d'émerger, c'est-à-dire en créant une bibliothèque des virus les plus dangereux, et aussi à travers des mesures d'éducation sur le plan local, comme apprendre par exemple aux populations rurales qui vivent à proximité de ces grottes remplies de chauves-souris, à ne pas se faire contaminer par les chauves-souris, par exemple en calfeutrant leur toit pour éviter des infestations de chauves-souris, ou en faisant bouillir le lait de chameau qui est bu dans certains pays pour en supprimer les virus.
Il y a une partie éducation, effectivement, que vous signalez, le fait que les populations locales peuvent aussi manger des chauves-souris ou des animaux qui ont été contaminés par les chauves-souris. Et ça entraîne d'ailleurs une contamination d'une partie des habitants. Ça fait aussi partie de leur travail ?
Oui, alors justement, une des découvertes les plus intéressantes effectuées par ces chasseurs de virus, c'est d'avoir testé les populations qui vivent à proximité d'une des grottes au Yunnan où ils ont trouvé énormément de coronavirus. Et ils ont découvert que parmi ces populations, 3% avaient déjà été exposés à des virus qui normalement n'existent que chez la chauve-souris. Donc ça signifie que certaines de ces populations sont exposées à des nouveaux coronavirus sans même qu'on le sache, sans même que ce soit identifié, parce que ce sont des gens qui ne vont pas aller à l'hôpital forcément quand ils sont malades, ou alors ils contractent uniquement une forme très bénigne de l'infection. Et donc il y a effectivement beaucoup de contamination comme ça qui passe inaperçue.
On comprend bien l'utilité de ces chasseurs de virus, notamment pour la surveillance, la découverte de nouvelles pathologies, surtout en ce moment, hein, forcément. Malgré tout, vous le signalez, leur avenir est incertain aujourd'hui ?
Oui, alors surtout l'avenir de l'initiative PREDICT, qui est une sorte d'organisation parapluie qui regroupe de nombreuses équipes de chasseurs de virus et qui était financée par le gouvernement américain à hauteur de plus de 200 millions de dollars. Et le mandat a expiré fin mars et n'a été pour l'instant renouvelé que pour les 6 prochains mois.
À l'écoute de Julie Zog, ne vous étonnez pas si vos enfants demain vous disent qu'ils veulent devenir chasseurs de virus, comme nos grands-parents voulaient être explorateurs ou astronautes, à moins qu'ils ne se dirigent vers un autre métier qui fut longtemps énigmatique, du moins jusqu'à l'épidémie de coronavirus, qui a permis de découvrir qu'il y en avait beaucoup qui écumaient la twittosphère. Je veux parler des épidémiologistes, ou plutôt des détectives d'épidémie, pour reprendre l'expression de Florence Bochard dans les Échos Week-end.
Inspecteur Gadget, toujours prêt. À bientôt, chef.
Mais non, rien à voir avec l'inspecteur Gadget ou avec Détective Conan. Les épidémiologistes sont avant tout des scientifiques qui sortent parfois de leur bureau et pas seulement pour hanter les plateaux télé. Bonjour Florence.
Bonjour Pierrick.
Alors d'abord, c'est quoi un épidémiologiste ?
C'est un scientifique qui s'intéresse à la dynamique des maladies, mais à l'échelle de la population, quand l'infectiologue, lui, se préoccupe de comprendre cette maladie à l'échelle de l'individu. Donc il a une vue assez large de la problématique, qui inclut donc des aspects très différents, y compris sociologiques et économiques. On peut le comparer à un chef d'orchestre qui connaît un peu tous les instruments, donc toutes les matières qui rentrent en ligne de compte pour comprendre cette épidémie, mais qui doit veiller à ce que tout le monde se coordonne pour produire une certaine harmonie. Donc c'est à lui qu'il appartient aussi d'analyser les causes donc de la maladie, sa dynamique, ainsi que les moyens de la traiter, de la contrôler, voire de la prévenir dans le futur. Mais ça peut évoluer selon les contraintes de la zone dans laquelle se produit la maladie, ainsi que le développement, le niveau du développement du système de santé ou la culture locale. C'est un aspect transdisciplinaire qui fait tout son intérêt pour nombre de personnes que j'ai interviewées sur ce sujet.
Et ils sont nombreux en France, justement ?
Ils sont 300 à 400, ce qui n'est pas énorme, en fait. Hein. Si on regarde, par exemple, le nombre de cardiologues que compte la Société savante de cardiologie, c'est 5 000 membres. Ou les microbiologistes, c'est 1 700.
C'est une origine, je crois, qui est assez ancienne, malgré tout.
Tout à fait. En fait, c'est une science qui remonte même aux Grecs. Hippocrate est considéré comme le père de l'épidémiologie. Ce médecin s'intéressait pas seulement aux déterminants individuels des maladies, mais également à l'impact de facteurs environnementaux, comme le climat, la qualité de l'eau, de l'air. Il a même écrit un traité dessus, qui s'appelle le traité sur l'air, l'eau et la terre. Et au XVIIIe siècle, cette vision a eu de nouveau du succès. La Société royale de médecine française de l'époque avait même diligenté des enquêtes sur le terrain pour comprendre mieux, là aussi, la topographie médicale de lieu. Mais il faut attendre le 19e siècle pour que les principales méthodes de l'épidémiologie se mettent en place et qu'on comprenne mieux ce qu'on appelait au départ des miasmes, puis des germes et enfin des virus et des bactéries quand le microscope va révéler la nature microscopique et puis la nature infiniment petite des responsables des maladies infectieuses. À l'époque, c'est surtout le choléra, la variole, la diphtérie. Voilà.
On a des maladies qui, heureusement, alors elles n'ont pas encore disparu, mais disons qu'elles sont beaucoup moins fortes qu'à cette époque-là ou beaucoup moins présentes. Comment est-ce qu'on devient épidémiologiste ?
Eh bien, en fait, c'est une formation complémentaire à un bagage initial qui peut être de l'infectiologie, de la virologie, mais de plus en plus aussi de la physique, des mathématiques ou des statistiques. C'est un master qu'on fait. Et puis après, on peut aller un peu plus loin. Et en France, il y a plusieurs filières, mais il y a aussi des écoles de santé publiques connues, comme à Harvard.
Florence, quand on dit épidémiologiste, on imagine quelqu'un de sérieux avec une blouse blanche dans un labo. Or, il y a quand même un peu d'Indiana Jones dans leur travail ?
Tout à fait, parce qu'il y a les modèles, les études d'un côté, mais les études, il faut savoir les planifier de façon très pertinente. Et si on ne connaît pas le terrain, si on n'est jamais allé dans les pays où les maladies sévissent, on peut très bien passer à côté. Parce qu'il y a une notion de comportement qui peut modifier le cours des épidémies. On voit bien l'effet du confinement aujourd'hui, ça ralentit la circulation du virus, alors que le virus est toujours là. Mais en respectant certains gestes barrières, on évite une contamination accélérée.
C'est pour ça que vous les appelez aussi des détectives d'épidémie ?
Oui, parce que, par exemple, au 19e siècle, l'anglais John Snow, il s'est intéressé à la propagation du choléra dans les quartiers défavorisés de Londres. Il avait remarqué que il y avait un des quartiers qui était très affecté et il s'est demandé si ce n'était pas lié à l'eau, à la nature de l'eau. Et en enlevant le paras de la pompe à eau de Broad Street, dans le quartier de Soho, ben, les cas de choléra ont diminué. Et pareil aux États-Unis, il y a eu un cas d'infection lié à des infiltrations de patients liés à des problèmes articulaires. Et on ne comprenait pas pourquoi certains patients développaient une autre maladie. En reprenant les dossiers de ces patients, les épidémiologistes ont constaté que les patients infectés avaient tous reçu un produit d'un même fabricant. Et en analysant ce produit, ils ont identifié le responsable des infections et résolu ainsi le problème. C'est à la fois un travail très minutieux et à la fois un travail où on prend de la hauteur.
Ah si on essayait sur toute la planète, ma chloroquine, ah si on essayait sur toute la planète.
C'est devenu la star des épidémiologistes, pour ne pas dire plus. Le professeur Didier Raoult a même le droit à des chansons à sa gloire. Il a fait sortir la profession de l'ombre. Et quoi qu'on en pense, Florence, les épidémiologistes jouent un rôle important dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.
Tout à fait. Parce que leurs prévisions sont un peu un guide pour les politiques, compte tenu de la nature scientifique du danger. Et c'est par exemple en Angleterre où Boris Johnson avait prévu d'attendre le déroulement naturel, si je puis dire, de la contamination, quand son épidémiologiste réputé de Imperial College a publié un modèle selon lequel plus de 500 000 Britanniques risquaient de mourir et 2,2 millions d'Américains si on ne faisait rien. Très rapidement, il a changé son fusil d'épaule, d'autant que c'était le système de santé lui-même qui risquait de ne pas pouvoir suivre. En revanche, en Suède, par exemple, il y a un certain Anders Tegnell qui, lui, a pris ce pari de l'immunité collective, mais en tablant sur justement un comportement raisonnable, si je puis dire, de la part de ses concitoyens, qui sont plus civiques sans doute et dans un pays moins dense que le nôtre. Et il n'a pas confiné son pays. Et jusqu'à présent, il s'en tire pas si mal, bien que récemment, le nombre de cas a eu tendance à s'accélérer par rapport à ses voisins nordiques confinés. En revanche, il dispose d'une très grande popularité, y compris des groupes de fans sur Facebook, et certains vont même jusqu'à se faire tatouer son visage sur le corps.
Au-delà des polémiques sur le traitement du Covid-19, il faut, Florence, rappeler l'importance de la surveillance, de la traque de ces virus.
Tout à fait. Il y a déjà plusieurs réseaux de surveillance de ces virus, mais c'est vrai que le problème qu'on a eu depuis les années 2000, peut-être, c'était que chaque fois qu'il y a eu une épidémie, elle ne durait pas forcément très longtemps. Donc, il y avait une mobilisation quelques mois. Et puis après, comme le virus disparaissait, ben, les financements ne suivaient plus. Mais c'est vrai que la fréquence de plus en plus rapprochée de nouveaux virus font qu'il y a aujourd'hui même des intérêts privés qui s'y intéressent, comme la Fondation Bill et Melinda Gates. Et des pays également qui ont formé il y a 3 ans une coalition de préparation des épidémies. Donc il y a quand même une prise de conscience de plus en plus vive de ces problématiques.
Ça veut dire que cette pandémie est susceptible aussi de relancer l'intérêt et les fonds pour les maladies infectieuses ?
Oui, on peut y penser. Parce qu'en fait, avec le progrès de la vaccination, eh bien, progressivement, au XXe siècle, à partir de 1945, le focus, si je puis dire, les scientifiques se sont plus mobilisés sur ces maladies multifactorielles, les maladies chroniques qui sont devenues parmi les principales causes de décès, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires. Donc, ça a suscité d'autres types d'études étalées sur des années, comme Framingham, par exemple. On en est à la 3e génération qui est suivie pour tous les problèmes cardiovasculaires. Ça permet quelques décisions de santé publique et d'avoir un impact sur le comportement du grand public. C'est même, par exemple, il y a eu aussi des études, on ne pourrait pas penser forcément que ça intéresse les épidémiologistes, mais la mort subite du nourrisson. Eh bien, les études ont montré qu'en évitant de les mettre sur le ventre, on risquait moins de la mort subite du nourrisson et ça donné des recommandations strictes. Et en quelques années, en France, le nombre de morts subites d'aneurysme a décru de 70%. Donc, c'est pour montrer que c'est des travaux, même s'ils portent parfois sur des années, qui finissent par avoir un impact, qui sont vraiment à la source d'une amélioration de la santé publique.
Merci Florence Beauchard, journaliste aux Échos Week-end, pour ce décryptage du métier d'épidémiologiste. Et merci à Julie Zog, journaliste indépendante, de nous avoir emmenés sur les traces des chasseurs de virus. Deux beaux articles à retrouver dans les Échos Week-end. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.